J'aime bien justement avoir plein de choses à faire et plein de choses différentes et pas faire tout le temps la même chose. Donc si je devais faire que de la photo tout le temps, j'aurais peur de finir par m'en lasser. Clairement pareil pour le marketing.
Bonjour à tous, ici Régis Moscardini et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de cette série Métier de photographe. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, on a dépassé les 1000 écoutes par semaine et ça c'est vraiment formidable. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de découvrir le podcast, je suis ravi de vous avoir parmi nous. Je vous rappelle rapidement le concept, une fois par semaine je vous emmène avec moi à la rencontre d'un ou d'une photographe qui s'est lancé dans la belle et grande aventure de l'entrepreneuriat en photographie. Ce sont donc toujours des parcours personnels et aussi photos très très riches car toutes ces personnes ont vécu plusieurs vies professionnelles. L'objectif est que leurs expériences puissent vous aider, vous, à votre tour, à prendre conscience que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour professionnaliser, pour passer à l'action et pour monétiser votre savoir-faire photo. Parce que bien souvent, en fait, je me suis rendu compte qu'il s'agissait juste d'avoir une étincelle pour démarrer. Et donc, c'est le but de ces entretiens, qu'il soit cette étincelle. Je reçois pour ce sixième épisode la photographe de mariage Émilie Cabot. Alors Émilie a une carrière classique de salarié, bien remplie à différents postes dans le marketing. Ensuite, elle a été photographe de mariage à temps plein pendant quelques années. Et depuis quelques mois, elle a décidé de reprendre un poste de responsable marketing dans une grande boîte à 50-50 avec la photographie de mariage. Donc avec cette nouvelle orientation dans sa carrière, Émilie gère désormais son activité de photographe pro, mais aussi celle de salarié. Et donc toute cette riche expérience pro et perso qu'elle partage avec vous dans ce podcast. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, Émilie Cabot, photographie avec photographie Y à la fin. Dernière chose, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Je prends quelques jours de pause, là, c'est les temps de vacances de Noël. Donc on se retrouve, je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Émilie.
Salut,
ça va?
Ça va et toi?
Ouais, je remercie. Et écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir en direct.
Merci, pareil.
On va commencer très simplement comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je vais te poser une question toute simple, avec une réponse pas forcément facile, mais c'est obligé, de toute façon. C'est juste te présenter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Alors, c'est pas la question la plus facile, du moins la réponse la plus facile, parce que c'est pas celle où je suis le plus à l'aise. Mais... Donc, je m'appelle Émilie, je suis photographe plutôt spécialisée dans le mariage, donc l'éditorial. Et je suis basée en Rhône-Alpes, c'est-à-dire près de, pas loin de Genève, entre Genève, Annecy, et puis je suis sur toute le Rhône-Alpes et la Suisse. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où je peux en dire.
Pas si bien, non. C'est vrai que du coup, c'est un peu délicat parce que je te demande de ne pas trop en dire, mais quand même, il faut que tu dises des choses, donc tu ne sais pas où t'arrêter, quoi. Non, ouais, non, c'est parfait. Juste, j'ai remarqué que tu as dit « je suis... » photographe plutôt en mariage, mais le plutôt, ça veut dire quoi en fait du coup?
Ça veut dire que à l'origine, la photo c'était d'abord une passion et que ce qui m'a amené à la photo de mariage, c'était la photographie de voyage. Je suis quelqu'un qui adore voyager et du coup, dès que j'en ai eu l'opportunité, je suis partie voyager loin et voyager safari notamment. Et donc, la recherche un petit peu de progression à ce niveau-là s'est faite d'abord autour du voyage, des paysages, des animaux, de la vie sauvage, etc. Et après, la spécialisation dans la photo, qu'on va dire sociale, s'est faite dans un deuxième temps. Et là, je me suis rendu compte quand au final... Ah, tu fais des belles photos, est-ce que tu pourrais faire mon mariage ou ma séance grossesse ou les photos de famille? Donc la première fois, oui, ok, c'est des amis, c'est de la famille ou quoi, donc tu le fais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à voir entre gérer des photos de paysages ou même d'animaux ou quoi et des photos de gens, avec l'interaction, avec tout ce que ça peut impliquer. Et c'est là où il y a eu une bascule, entre guillemets, où je me suis formée Et c'est pour ça que je dis spécialisée dans le mariage.
Dans le mariage, ouais. Donc toi, ta porte d'entrée dans la photographie, c'était la nature, plutôt typé
Voyage.
voyage, et puis dont tu as parlé, tu as lâché le mot safari. C'est vrai qu'on a tous des portes d'entrée dans la photographie qui sont très différentes, très personnelles. J'ai une personne que je coach, que j'aime beaucoup par ailleurs, Florence Plume, qui, elle, c'était sa porte d'entrée, c'était la naissance de ses enfants.
D'accord.
Voilà, donc elle s'est dit, j'ai pas assez de belles photographies de mes enfants, je suis frustrée, donc je vais me former, je vais apprendre la photographie pour avoir des belles photos de mes enfants. Moi, ça a été bah, l'animalier, évidemment. Ça peut être très, voilà, très, très différent les uns les autres. Toi, voyage, je voudrais quand même revenir là-dessus. Parce que c'est toujours la vraie question, en fait. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de photographier, d'immortaliser bah, ces voyages-là? Parce qu'on peut très bien, et comme tout, hein, on peut être tu vois, avoir le côté, j'ai envie de dire, méditatif, et juste être dans le moment présent, voir la belle chose, voir ces beaux enfants, voir ce beau renard qui est là, voir ce magnifique paysage en voyage, et ne pas devoir photographier, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de photographier?
Alors, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question, justement, en mode tu veux pas juste profiter de l'instant présent au lieu
C'est
de
ça?
prendre en photo? Et là, la réponse, bah, en général, que je donne, c'est un peu tu seras bien content d'avoir la photo quand on sera rentré. Mais plus sérieusement, il y a certaines photos que j'ai prises et que je regarde et qui sont un peu des madeleines de Proust, ce qui fait qu'en fait, il suffit que je regarde la photo pour être de nouveau transportée dans ce désert avec le sable tout fin, la chaleur, le lever de soleil, les ombres qui changent, les textures qui évoluent. Et en fait, les photos me servent à moi un petit peu de souvenirs, de garde de mémoire, de garde-temps en fait, et qui me permettent de me replonger dans un moment précis. Je fais de plus en plus attention aussi, même en voyage, à être intentionnelle dans les photos que je fais, c'est-à-dire pas à cliquer partout en disant ah, c'est joli, et de me dire non, mais cette photo, tu la regarderas jamais après.
Ouais.
Donc il y a ce travail aussi.
D'accord.
Qui n'était pas évident de base, parce qu'on a
Ouais.
tendance à
On a
prendre la
envie de
photo dans un endroit.
on photographie trop, et puis du coup derrière ça reste, on ne l'utilise pas, quoi. Donc toi, tu
C'est
essaies
ça exactement.
de la, on pourrait l'appeler la slow photographie, quoi. Ce serait un peu ça, finalement.
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de slow, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tends.
D'accord.
Et justement, c'est aussi cet effet-là. Quand je regarde par exemple la photo, j'ai une photo d'un lion en noir et blanc, portrait très près. On pourrait croire que j'avais un zoom de folie, et non, il était juste derrière ma fenêtre, en fait, dans la voiture.
D'accord.
Donc, quand je regarde cette photo, je revois encore ce lion qui me regardait et qui savait très bien que j'étais là, et je me dis, enfin, je faisais attention au moindre de mes gestes. Quand j'ai baissé la fenêtre pour faire passer juste ce qu'il fallait pour l'objectif pour le prendre en photo, je voyais bien qu'il me regardait un peu comme un chat regarde une souris.
Tu t'es senti vraiment proie là?
Oui, ah, complètement.
Ah
Oui,
oui, ah
c'est tout
oui.
l'avantage du safari, c'est de se sentir toi en cage et eux en liberté.
Ben ouais, c'est l'inverse.
Exactement,
Les
leur corps est
paradigmes
complètement
s'inversent, quoi.
inversé. T'es pas chez toi, t'es tout petit face à la nature et t'es vulnérable. Et ça rend les rencontres comme ça d'autant plus impressionnantes et marquantes. Et donc justement, je regarde cette photo et je ressens encore le petit frisson qui me remontait le long de la colonne en mode t'es à ça de te faire bouffer. Enfin, non, c'est chouette.
Donc en fait, ouais, la photographie déclenche la mémorisation, la mémoire, et te permet de refaire le film, la vidéo de ce moment-là
Exactement.
dans ta tête que tu ne pourrais pas avoir. Peut-être, en tout cas, on a tous ces souvenirs-là, ils sont là, mais il faut l'élément déclencheur qui permet de faire remonter ce souvenir. La photographie, pour toi, est un moyen
C'est
de
ça,
l'avoir.
exactement.
Ok.
Donc au départ, c'était par rapport au voyage, c'est toujours le cas.
Ouais.
Et puis après, il y a eu ce transfert ou cette bascule avec la photo des moments marquants de notre vie sans forcément aller au bout du monde.
Ouais.
Et donc, plus spécialement, le
Ok.
mariage, ça va être aussi la photo. Souvent, les mariés, après, ils me recontactent en mode on attend un heureux événement. Et
Et
donc,
oui, il y a quelque chose qui se crée aussi de la relation avec la personne que tu as photographiée, enfin, les
exactement.
personnes pendant le mariage.
Donc la semaine dernière, j'étais en train de photographier la naissance d'une petite, enfin la naissance,
Oui, non,
le
mais
bébé, voilà.
ouais.
Et sachant que 2 mois avant, j'avais fait leur séance grossesse, et puis l'année dernière, j'avais fait leur mariage. Donc au final, on
D'accord.
se suit un petit peu comme ça. Et
Puis
puis
les étapes de leur vie. Ouais.
exactement, voilà.
Ouais. Ouais. D'accord,
Donc
d'accord.
c'est toujours.
Tu as parlé de formation,
Oui.
Émilie. Voilà, donc tu t'es formée à la photographie.
De mariage, oui.
Donc de mariage. La photographie de paysage, nature, voyage, c'est toi toute seule.
Alors
Comme beaucoup
non,
de photographes.
c'est pas que moi toute seule, ce serait un peu présomptueux, mais disons qu'il y a eu un mélange d'autodidactes,
Ouais.
et quand j'ai fait mes études, il y a eu plusieurs cours qui étaient disponibles en photographie, donc je les avais suivis, et ça donne une bonne base sur les bases justement, mais
D'accord.
on peut pas vraiment dire que suite à ce cours, ou enfin suite à cette, c'était un semestre de photo, j'étais...
Non, mais en tout cas, les bases, quoi. Les bases pour pouvoir aller plus loin,
Exactement.
sereinement, tranquillement, ouais.
Exactement.
On va aller tranquillement sur le côté pro-business, parce que c'est quand même un des points importants que je vais aborder avec toi. Mais restons sur l'aspect, on va dire, photographie pour l'instant. Ben ouais, amateur, en tout cas de tes débuts. Moi, quand j'ai découvert ton compte, j'ai trouvé tes photographies très belles. Ces beaux paysages magnifiés par le moment de la prise de vue, par la technique, mais aussi magnifiés par du post-traitement, mais tout à fait subtil et bien fait, qui va te permettre de,
Merci.
ben, je sais pas, de se dire quand on voit la photographie, waouh, même celui qui, comme moi, n'a pas vu la photographie, on a envie d'y rester et de s'imaginer quelque part, finalement, de s'imaginer ce qu'il y avait derrière, tu vois. Donc ça, c'est intéressant et je trouve vraiment des photographies très belles par rapport à ça. Mais j'ai toujours été surpris notamment au début, du manque d'abonnés par rapport à tes photos, tu vois. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas plus d'abonnés?
Alors, j'ai aucune stratégie à ce niveau-là,
Ok.
et c'est pas du tout. Instagram, c'est un petit peu drainant émotionnellement ou quoi pour la course au like et la course à la popularité. Et ça fait pas du tout partie de mes priorités, de ce que
D'accord.
j'ai envie de faire. Et pour moi, c'était plus du partage gratuit, entre guillemets, de
D'accord.
l'expérience et de choses que je vivais. Les gens aiment, ils aiment, ils aiment pas, ils aiment pas. Je leur
Pas
coupe.
d'ambition là-dessus. Ouais.
Non, voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc après, c'est toujours agréable quand une photo est likée, etc.
Bien
Mais
sûr.
j'ai pas envie de dépendre de ça. En tout cas, pour mes photos perso,
D'accord.
pour le pro, c'est différent. Mais ça, fondamentalement, ça fait pas partie de moi, cette recherche
Ouais.
d'être toujours sur le devant de la scène et d'avoir
D'accord.
le plus d'abonnés, le plus de likes, le plus de... Voilà.
C'est le plaisir de partager et ça arrive, si ça arrive, si l'algorithme montre ça à d'autres personnes, eh ben c'est très bien, sinon c'est pas grave. Et,
Alors, au niveau de mon compte pro, c'est exactement ça. Et au final,
ouais, d'accord.
oui.
Par rapport à tu as dit tout à l'heure, donc tu as dans tes cours, hein, dans tes études, tu as eu des modules photo, mais tu n'as pas fait d'études photo, hein. On
Non,
est hein.
j'ai fait des études complètement différentes. J'ai fait d'abord une licence d'anglais, et puis après, je me suis redirigée vers une école de commerce américaine, dans le sens, c'est pas on n'est pas sur l'école supérieure de commerce à la française, mais plutôt sur un cursus d'une école américaine
D'accord.
avec un cursus en marketing et communication.
D'accord.
Après, je me suis spécialisée dans la dernière année où il fallait se spécialiser. J'avais une tendance un peu créative, et donc en graphisme, édition et photo.
Les photos. Ok. Ben d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais il est peu probable que dans des écoles de commerce françaises, comme ça, tu puisses avoir l'accès à des modules qui n'ont rien à voir avec le commerce.
C'était pas trop non plus disponible. J'ai un peu fait
Ouais.
du forcing à ce
Ah,
niveau-là.
ok, d'accord, ok, ça marche. Donc ça veut dire que non, mais c'est intéressant ce que tu dis là, c'est que qu'est-ce qui fait que à partir d'un certain âge, je veux dire l'âge typiquement je sais pas moi, de aller 35, 40, 45 ans, 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont envie, qui sentent qu'il y a un manque dans leur métier, c'est parce que très souvent leur esprit, leur aspect créatif de leur personnalité a été vraiment enfoui dans un métier très technique. Très, comment dire, normal, classique, voilà. Et donc, ben, pendant très longtemps, leur côté créatif est resté de côté. Et puis, au moment donné, ça ressort. Et puis, ça ressort de manière un peu violente ou pas violente du tout, mais en tout cas, ça ressort. Toi, dès le début, tu étais à l'écoute de ça et tu as su que tu avais en toi cette fibre créative et tu l'as écouté assez vite, en fait. Tu n'as pas attendu que ça pète quoi pour que ça sorte.
Alors, si, ça a pété quand j'ai fait justement ma licence d'anglais,
Ok.
parce que je voulais être prof d'anglais et que depuis la sixième, je savais que je voulais faire ça. Et quand je me suis retrouvée vraiment dedans, non.
Et c'est important parce que ça s'est manifesté comment en fait? C'est-à-dire que comment tu t'es dit là, il y a un truc qui coince? C'est important de. Parce que alors là, je parle particulièrement pour les hommes, je vais me passer pour le savoir, c'est qu'on a tendance à un peu à garder pour nous et à ne pas s'écouter, tu vois, à être un
Ouais.
peu
Alors j'ai été un peu
masculin.
élevée comme ça, donc ça va,
Ouais.
je peux comprendre.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ben, alors bon, je vais devenir très personnelle et ça peut pas forcément s'appliquer à tout le monde, mais j'ai toujours été très bonne en classe, un peu
Bon
dans,
élève.
voilà, bonne élève. C'était un petit peu la compétition avec les autres élèves en mode qui va avoir la meilleure note et ceci, cela. Et donc j'avais jamais connu vraiment l'échec. Et l'échec, je l'ai connu quand je suis arrivée à la fac,
OK.
où au final, c'est pas du tout le même mode d'apprentissage et c'est pas fait pour tout le monde, je pense.
OK.
Et alors, y a ça d'une part, où au final, je me suis sentie un petit peu en décalage avec la façon dont ça se passait dans la fac où j'étais en tout cas. Et il y a eu aussi le fait que je voulais être prof d'anglais parce que j'aimais l'anglais au final et j'aimais le contact avec d'autres langues, etc. Et on m'avait toujours dit, ben, il y a soit tu seras prof, soit tu seras traductrice. Et le conseiller d'orientation, comme les conseillers d'orientation sont... Voilà, m'avait dit, ben, oui, alors traductrice, c'est un peu à la pige, c'est pas très stable. Moi, je voyais l'intérêt d'être prof, c'était que je voyais les vacances et voilà, enfin, c'était absolument... J'avais pas la fibre de quelqu'un qui partage son savoir avec des enfants. Et, enfin, bon.
D'accord,
Il y avait peut-être un peu de ça, mais c'était surtout pour m'auto-flatter que vraiment.
ouais.
Et donc, je me suis retrouvée à passer mon BAFA parce que ça faisait gagner des points pour le CAPES.
Ah oui? Le
Voilà.
BAFA, c'est un petit diplôme
Pour être
d'animation,
animateur
voilà,
dans
d'enfants
les
d'âge.
colos et les centres
Exactement.
aérés, choses comme ça.
Exactement, ouais.
Donc, j'ai passé la partie théorique. Et après, il y avait donc un stage pratique à faire. Et donc, j'ai passé tout l'été à faire mon stage pratique en juillet dans un centre aéré et en août dans une colo.
Ouais.
Donc, une colo qui durait 3 semaines où on dormait sur place, etc. Donc, c'était du H24 pendant 3 semaines. Et où je me suis retrouvée en tant qu'animatrice pour des enfants de 11 à 13 ans. Donc, typiquement, le genre de public que j'aurais eu en
En
tant que.
collège, par exemple, bien sûr,
Exactement.
ouais.
Et enfin, honnêtement, ça a été un fiasco total.
Êtes confronté à la réalité du terrain, bon, dans un cadre,
Exactement, je me suis
c'était pas un cadre
confrontée
scolaire, donc un peu différent, le cadre de vacances, tout ça, de colo, mais n'empêche que le public était là, quoi. Et là, tu t'es
Le
dit,
public
waouh,
était là, le
ouais.
public était là dans toute sa diversité et dans toute sa crise, en fait, parce qu'un
Ouais,
enfant de 11 à 13 ans, c'est pas encore vraiment un adolescent, mais c'est plus
non.
déjà un enfant. Et donc, c'est. Bon, à l'époque, je devais avoir quoi, 19 ans en plus, donc je n'étais pas non
D'accord.
plus la plus mature des personnes. Hein,
Ouais.
mais donc, ça a été une grosse crise. Je me suis dit, mais tu t'imagines avoir ce genre d'enfant-là toute ta vie? Tous
Ouais.
les jours, tu te lèves pour aller essayer de leur inculquer un truc alors qu'ils ont non, mais strictement rien à taper de ce que tu leur racontes. Donc, je me suis dit, mais il faut vraiment que. Voilà. Grosse crise. Et à ce moment-là, j'ai passé quelques temps à me chercher, entre guillemets, à chercher qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie. Et puis, je suis
D'accord.
tombée sur du coup. Cette école
D'accord.
qui permettait donc donc les cours étaient en anglais, le cursus était international, donc je retrouvais ce côté langue et j'apprenais en plus d'autres choses.
OK.
Et donc, après, la fibre créative, elle était là, je ne savais pas trop comment l'exploiter, comment l'explorer. Et c'est quand j'ai pris mon premier appareil photo que je me suis dit, ah ouais, ça j'aime bien. Ça voulait pas dire que je faisais des belles photos. Hein.
Non, mais ça t'a plu. Il y a un truc, ce moyen d'expression artistique t'a plu. Ça aurait pu être autre chose, mais en tout cas, ça t'a plu, quoi.
C'est ça, voilà.
D'accord. Bah, écoute, merci d'avoir dit, c'est pas fini, hein, mais merci d'avoir dévoilé ces moments qui sont personnels, parce qu'effectivement, on ne dit pas forcément
Non, c'est pas trop le genre de choses que je raconte, mais ok.
Non, non, mais bon, c'est personnel, en même temps, ça, il n'y a rien d'intime, donc
Oui,
voilà.
oui.
Mais non, non, mais c'est important parce que, justement, c'est ce genre moi, je suis friand de ce genre d'anecdotes, de parcours personnel des personnes qui sont maintenant photographes, parce que ça permet à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cette période-là et qui se disent, Ouais, bah, ça me parle, quoi. Enfin, moi aussi, je comprends ça, ou il y a un truc qui coince chez moi, je sais pas trop ce que c'est. Et je dis souvent qu'il faut savoir s'écouter. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, hein. Mais c'est justement, être attentif à chacun des petits signes, des frictions, tu vois, des trucs qui coincent, un peu de mal-être, peut-être, de trucs qui ne vont pas. Être attentif à ça, parce que si on ne l'est pas, on peut ne pas l'être, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir ces signaux-là sans qu'on se rende compte. Donc, on avance, on avance, on avance, et puis au bon moment, ouais,
Ça
ça
pète.
coince, ça pète, hein. Ça peut péter à tout âge. Donc non, c'est important de. Alors après, comment on fait pour être à l'écoute? Bah, moi,
Ne pas
c'est poser un peu, c'est pas toujours être dans le guidon, c'est prendre des
prendre un
temps
peu de
où,
recul.
ouais, du recul, mais de manière très concrète, c'est. Moi, je fais ça depuis quelques temps et je suis loin d'être comment dire, un exemple là-dessus, mais c'est simplement se poser et tu sais, ne rien avoir, pas de bruit. Quand on est tout seul, c'est pas de bruit, pas de musique. Pas d'émission à côté, pas de radio allumée, évidemment pas de télé. Se poser, s'asseoir, pas de livre, et puis et juste tranquillement, tu vois, laisser monter un peu les pensées, les accepter, et puis ça s'appelle plus ou moins la méditation, hein, et puis des fois, ça permet justement ça de s'écouter, d'avoir des choses qui ressortent. Voilà, mais il y a peut-être d'autres façons. Ça peut être aussi discuter avec un professionnel aussi, hein, pourquoi pas un
Ça
psy, pourquoi
pourrait.
pas je sais pas, un prof de yoga, j'en sais rien, hein, un proche, un ami, ça peut être ça aussi, hein. Mais il faut prendre ce temps de recul qui est nécessaire quand on sent que ça commence un petit peu à frotter, quoi. Tes études t'ont emmené vers un premier métier qui n'est donc pas la photographie. Juste en quelques mots, c'est quoi comme métier? Tu as fait ça combien de temps? Donc tu as fait ça combien de temps? Et surtout la photographie, comment elle s'articule, comment elle s'intègre là-dedans, quoi?
Ça m'a amené vers tous les métiers de la communication et du marketing. Ça pourrait être, enfin, après, les métiers de la communication et du marketing sont très très vastes, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais pour moi, c'était plutôt orienté com et marketing dans l'aviation, mais ça aurait pu être ailleurs. Et maintenant dans l'industrie. Et la part créative, alors justement, ce qui est intéressant dans ce cursus, c'est que c'est des métiers transverses ou supports, donc on peut retrouver un peu partout, et qui donc permettent de découvrir différents environnements, que ce soit des environnements industriels, l'environnement du luxe, l'environnement, enfin voilà. Et donc ça permet un petit peu de... Ça fonctionne aussi par projet. Donc les projets ne ressemblent pas forcément à un autre, et donc il y a cette dynamique-là qui est intéressante. Et dans cette partie-là, quand il y en avait l'opportunité, ou quand on a l'opportunité de commander un shoot photo, ou de réaliser des photos, ou de créer du contenu graphique, ou des choses comme ça, du coup, je peux m'éclater
D'accord.
en termes de créativité, que ce soit pour des supports graphiques ou de la photo ou des choses comme ça.
Donc là, la photo, c'est une compétence en plus dans ton
Voilà.
métier qui est
Une valeur
marketing.
ajoutée,
Voilà.
quoi.
D'accord. Donc j'imagine que tu ne ressens pas forcément de frustration. C'est-à-dire que tu as une passion que la photographie, tu t'es formé dessus, tu es forte là-dessus. Et ça te permet de peut-être mieux vivre ce métier qui est, j'imagine, très. qui est loin d'être. Quoique ça peut être créatif aussi, le marketing, quand même. Hein,
Le marketing peut être
ouais,
créatif,
c'est ça,
par
ouais.
contre, il y a d'autres. Effectivement, ce n'est pas ce qu'on va faire de plus créatif. Il y a quand même des contraintes de briefs clients à respecter, des
Oui.
choses comme ça. T'as pas carte blanche sur ce que tu
Bien sûr.
fais. On peut pas dire qu'en mariage, on est carte blanche sur la créativité,
Non plus.
mais il y a quand même certaines choses qu'on maîtrise, et il n'y a rien à voir. Donc, effectivement, je trouve que les deux se complètent bien, et pour l'instant, je suis assez contente
Ouais.
de pouvoir faire les deux,
D'accord.
parce que j'aime bien justement avoir plein de choses à faire et plein de choses différentes, et pas faire tout le temps la même chose. Donc si je devais faire que de la photo tout le temps, j'aurais peur de finir par m'en lasser ou de plus y prendre plaisir. Et clairement pareil pour le marketing,
D'accord.
où il y a eu un moment où j'ai complètement arrêté,
Ouais.
et ça m'a fait du bien de plus avoir cette pression-là, puisque c'est plutôt un environnement qui est
Avec des
généré par
résultats, il y a des résultats à avoir, ouais.
les résultats. Il y a toute la partie un peu communication, il peut y avoir un petit peu de politique aussi, ce qui est quand même
pas forcément tout le temps agréable à gérer. Donc non, j'aime bien la possibilité de pouvoir faire les deux. Après, les environnements de travail aussi sont différents. Donc, en fonction de là où on est, là, je disais que j'étais dans le marketing, dans l'industrie. L'industrie, c'est clairement pas le milieu le plus créatif ou le plus propice à ça. Donc, effectivement, de faire aussi de la photo en tant que professionnel, c'est un peu comme une soupape ou une bulle de. On respire et on est éclaté. Et justement, ça nourrit aussi.
Mais là, ça veut dire que c'est très personnel, en fait. C'est vrai que.
Oui.
On a toujours tendance à penser que quand on parle de reconversion professionnelle, ça voudrait dire qu'on va vraiment mettre de côté ce qu'on a fait avant. On va limite le nier ou le renier. Ça peut être ça, parce que vraiment, c'était une expérience douloureuse. On veut vraiment l'oublier et aller sur l'autre chose. Ça peut être ça. Mais parfois, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que l'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un. C'est-à-dire que tu as besoin de cet environnement créatif pour te élever.
C'est stimulant, en fait.
C'est stimulant, quoi, complètement.
C'est ça. C'est stimulant. Ouais. Après, justement, il faut trouver un équilibre pour pas que ça empiète aussi sur la vie personnelle, etc. Donc, je dis pas que c'est facile, mais pour moi, ça me convient dans le sens où, justement, alors la photographie, ça reste aussi un métier quand même plutôt solitaire. C'est-à-dire que, je ne fais pas partie d'un studio où on est plusieurs, etc. Et même si je fais partie de différentes communautés de photographes où on échange, etc., c'est quand même différent d'un cadre où on est avec des collègues sur des projets ensemble et où on fait du travail d'équipe. Et au final, je me rends compte que moi, j'ai besoin de à la fois avoir ce travail d'équipe et aussi...
Où tu te retrouves, toi. Ouais.
Moi, avec... Bon, alors, il y a aussi des équipes quand on crée, par exemple, des shoots, etc., avec d'autres créatifs, d'autres un fleuriste,
bien sûr.
Un wedding planner, ce genre de choses. Ouais. Mais du coup, ça permet quand même d'équilibrer un petit peu, justement. Et c'est, pour moi, c'est stimulant, ça me permet d'avancer, d'avoir différents projets, de ne pas être concentré que sur une seule chose.
C'est important, mais encore une fois, c'est très personnel parce que ça te correspond. Toi, et voilà, on revient à la même chose, il faut savoir exactement. Alors, c'est se connaître, quoi, hein, c'est savoir ce que tu veux.
Voilà,
c'est aussi ton pourquoi, je viens de dire en deux mots, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu fais de la photographie, et qu'est-ce que ça va servir, toi, en tant que personne, mais quel sens ça apporte à la contribution que tu veux apporter au monde, hein, voilà, donc ça, tout ça, ce sont des questions très personnelles, et on peut y répondre tout seul. Je trouve ça assez dur parce que c'est dur d'être honnête et sincère. C'est un peu paradoxal, mais c'est dur d'être honnête et sincère envers soi-même. C'est-à-dire que déjà, on ne va pas se poser des questions qui peuvent être déstabilisantes parce qu'on va se préserver. Donc, on ne va pas se dire, on ne va pas se dire, Régis, et pourquoi tu fais ça? Et qu'est-ce qui fait que... On ne va pas aller chercher loin au fond de soi parce qu'on ne veut pas s'auto-flageller quelque part, quoi.
C'est un peu ça, effectivement.
C'est un peu ça. Donc, c'est bien de le faire aussi avec quelqu'un qui va ne pas hésiter avec toute sa froideur empathique, quelque part, tu vois. Et mais qu'est-ce qui fait, Régis, qu'est-ce qui fait, Émilie, qu'à ce moment-là, t'as fait ça, ou tu vois, qu'est-ce que tu as ressenti?
Exactement.
Donc, c'est important d'avoir un échange qui te permet de savoir pourquoi tu te fais, qu'est-ce qui fait que tu veux le faire.
Et puis, il y a aussi la variable qui fait que ce que je réponds aujourd'hui, demain, dans 5 ans ou quoi, ça peut encore changer. Et c'est pas ce que je t'aurais répondu il y a 5 ans non plus.
Bien sûr.
Donc c'est vrai maintenant. Et je me retrouve maintenant. Je t'avoue que demain. Là, j'ai pas d'enfant, mais si j'en avais un, je pense que je reverrais peut-être aussi certaines priorités.
C'est vrai, bien sûr.
Comme ça. Après, c'est rien de gravé dans la pierre, et je pense qu'on est des gens qui sont capables d'être résilients, comme l'année a pu le prouver, d'être un peu flexibles et de s'adapter. Et c'est aussi ce qui fait la beauté d'un parcours.
Complètement, c'est vrai. C'est riche, quoi.
J'ai toujours été impressionnée et en même temps effrayée par les gens qui savaient tout de suite ce qu'ils allaient faire à 5, 10, 15 ans. Tu sais, les questions d'entretien d'embauche classiques, où vous voyez-vous dans 5 ans, où vous voyez-vous dans 10 ans, où vous voyez-vous dans 15 ans, mais mon Dieu, mais j'en ai aucune idée. Et donc, ça m'a toujours un peu impressionné, les gens qui savaient exactement ce qu'ils allaient faire.
Bien sûr.
Mais mon Dieu, mais si tu as un accident de parcours ou quoi, et tout est remis en question, qu'est-ce que tu vas devenir et qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, ma façon de voir les choses, c'est que c'est vrai aujourd'hui. Et je ne me bloque pas pour demain s'il fallait revoir un peu les choses.
Il est important, même si on ne sait pas exactement vers quoi on va, je pense qu'il est important de savoir pourquoi on le fait. Parce que ça te permet de relativiser peut-être des échecs et de douter en même temps, de savoir pourquoi tu le fais. C'est vraiment important. Moi, je sais que si je fais ce métier de formateur, photographe, de coach, Si je le fais, c'est que j'ai des raisons qui sont personnelles, liées à mon environnement familial, mais aussi pour aider les gens qui veulent aussi s'épanouir dans la photographie. Et donc, ça prend cette forme-là aujourd'hui, ça pourra prendre une autre forme demain, tu vois. Finalement, la forme, peu importe, c'est juste que je sais pourquoi je le fais. Et je trouve que ça, c'est hyper motivant parce que ça permet de relativiser peut-être des échecs, voilà, un parcours, en tout cas une forme qui n'est pas forcément celle qui nous convient le mieux, mais on sait pourquoi on le fait, donc on l'accepte plus facilement, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis on est plus paisible avec soi-même et on sait
Ouais,
pourquoi on le fait
exactement. Ouais.
et on n'a pas on est peut-être moins facilement déstabilisé quand les choses sont remises en question.
Ouais, complètement, ouais. Alors, photographie de mariage,
Oui.
donc, tu nous l'as dit, hein, c'est une. Bon voilà, les copains, les copines, les proches savent que tu fais des belles photos. Tiens, Émilie, je me marie dans quelques mois. Bah, faut que ce soit toi parce que ça me fait plaisir. C'est comme ça que ça se passe, hein, en général.
Au tout début, oui, quand
Ouais.
effectivement c'était un peu
Oui, au tout
ça,
début, voilà.
ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu veux pas faire le mariage, mon mariage, ceci,
C'est
cela?
ça.
Et puis, au final, je me suis rendu compte après avoir fait deux, trois mariages d'amis ou de collègues ou de famille que ben c'est un métier et il n'y a rien à
Voilà,
voir
donc
avec.
là, t'y allais, est-ce que t'y allais en te disant c'est bon, je sais photographier, ça va le faire, quoi. Tu t'es dit ça et tu t'es rendu compte que là, non, c'était pas possible?
Je me suis rendu compte quand j'ai livré le résultat que j'étais pas du tout contente de moi et que c'était pour les premiers mariages, bon, je pourrais jamais montrer les photos, c'est juste. Pourtant, ils en sont contents, mais
Ouais.
bon, je fais, non, c'est pas possible, ça va pas. Là, je vois tout ce qui va pas. Mais je me suis rendu compte qu'au final, il y avait en plus pour un mariage, c'est un événement a priori unique qui se reproduira pas ou pas tout de suite. Enfin, on l'espère pas pour eux. Et donc, il y a énormément de valeurs émotionnelles qui y est attachée. Il y a énormément d'attentes. Et c'est pas quelque chose où on se dit, oh, c'est pas grave, j'ai loupé, je ferai mieux la prochaine fois. Non, c'est loupé quoi. Donc, en tant que photographe, même photographe ami, je me suis rendu compte qu'il y avait, même s'ils étaient contents du résultat, bah parce qu'au final, c'était leur photo, c'était leur mariage, c'était leur photo et que pour eux, la photographie, c'était pas forcément peut-être le plus important, pour pas qu'ils fassent appel à un professionnel, je veux dire. Mais moi, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à l'aise à ce moment-là, parce que j'étais pas formée, et que du coup, ça nécessitait quand même une certaine maîtrise de plein de choses, plein de conditions de lumière, plein de. Il y a aussi
Le
la charge
matériel,
émotionnelle, le
le
matériel,
matériel,
effectivement.
ouais,
Qui n'a rien à voir quand
c'est
tu pars
ça,
en voyage ou quand je suis en mariage.
sûr,
Alors, effectivement,
bien sûr.
on est vraiment sur du matériel qui est complètement différent. Et donc aussi, savoir aussi gérer le stress d'une mariée, de parents de la mariée, de ceci, cela.
Le côté relationnel que tu n'as pas quand tu photographies un paysage, toi être détendu,
Exactement.
si toi t'es stressé, j'imagine qu'en face ça va
Certainement,
se
non, il ne faut pas
ressentir.
arriver stressé, il faut
Ouais.
justement
Ouais,
être quelqu'un qui est capable d'apaiser ou d'être à l'écoute, etc. Donc, alors pour le coup, ma formation en marketing et communication, en tout cas en communication, a bien servi parce que
bien sûr.
l'écoute active et ce genre de. Ça aide, vraiment. Après, je ne pense pas qu'il faille faire forcément des études pour faire ça, mais certains ont plus de tendance que d'autres, et en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et donc là, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, je peux pas proposer mes services comme ça pour du mariage. Il y a trop d'enjeux et j'ai pas envie de décevoir, j'ai pas envie de rendre quelque chose qui n'est pas à la hauteur de.
Juste une question, avant je te coupe, mais
Oui.
tu t'es rendu compte que tes photographies n'étaient pas à la hauteur par rapport à tes attentes perso? Tu t'es dit non, en gros, c'est pas beau, esthétiquement, ça ne va pas. Ou alors tu comparais tes photographies avec d'autres photographes, dont, je sais pas, des
Ah, un
sites,
mélange des deux.
un mélange des deux, c'est ça?
Ouais,
Un peu de
un
tout, quoi.
mélange des deux. Donc
D'accord.
déjà, moi, à la base, je fais non, j'arrive pas à obtenir le rendu que je veux. Il y
Ok.
a certaines choses que non. Et notamment, par exemple, ben, l'importance de la lumière et du positionnement par rapport à la lumière, qui au final l'essence de la photographie. La photographie, ça veut dire peindre avec la lumière. Et au final, ben, on gère pas, on maîtrise pas tout dans un mariage du tout, loin de là, puisque il y a différentes conditions de lumière entre les préparatifs, la cérémonie, l'église, s'il y en a une,
Bien sûr.
la piste de danse, enfin tout ça, la séance photo de groupe, de couple. Et donc, conseiller déjà les mariés par rapport à tout ça, savoir aussi s'adapter, trouver le meilleur compromis, moduler les attentes aussi. J'ai eu un mariage, par exemple, cet été, où. où, bah, cause Covid, ils ne pouvaient pas faire de dance floor à l'intérieur.
Bah ouais.
Et donc, ils ont fait ça dehors.
D'accord.
Et donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de limitation à ce niveau-là.
Ok.
Et donc, ils ont fait la piste de danse là où ils avaient fait le cocktail, c'est-à-dire dehors. Mais
D'accord.
dehors, il y avait zéro lumière.
Ok.
Il y avait aucun. Il faisait nuit,
Et ouais.
puisqu'il était minuit et demi.
Des projecteurs, peut-être, même pas des projecteurs, des
Non, alors il y
lampes.
avait juste le truc à laser du DJ.
Ouais. Ok, mais bon, c'est pas une source de lumière, quoi. Ouais.
Alors vraiment, ça
Ouais.
fait déjà, c'est des lumières qui sont intermittentes, qui
Ouais.
changent de couleur, donc qui ne sont pas forcément dirigées sur les gens qui dansent et tout. Donc au final, ça a été un gros challenge parce
Ouais.
que c'était noir noir.
Ouais.
Donc s'il n'y a pas de lumière, ça va être difficile de sortir des photos et des photos de qualité, etc. Donc là, je suis allée voir les mariés en disant, écoutez, là vraiment, je fais le maximum, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit. Enfin voilà. Donc il s'agit aussi de moduler les attentes. Non, non,
Sûr.
non, on comprend, il n'y a pas de problème. Vraiment, voilà, je ne pouvais pas faire venir 15 000 spots.
Ben c'est ça, ouais. Donc tu t'adaptes. Et alors, tu l'as dit, tu t'es formé, hein,
Oui.
typiquement pour la photographie de mariage.
C'est ça.
Quel type de formation? Technique, marketing aussi pour aller chercher des clients, pour
Alors, c'était global et en fait, c'est une plateforme qui s'appelle Ampara.
Ouais, ok, on connaît. Enfin oui, c'est une
Tu
très bonne
connais?
plateforme qui fait
Ouais.
plein de types de formations différentes,
Oui, qui
et
fait.
partout
Alors,
notamment sur le mariage. Est-ce que je crois que c'est Xavier Navarro, hein,
c'est Xavier
qui
Navarro,
d'abord est
effectivement, qui
photographe de
fait
mariage,
cette
donc
formation de
voilà.
photographe de mariage,
C'est ça,
exactement.
ouais.
C'est quelqu'un que je suivais déjà avec Objectif Photographe aussi à
Oui,
l'époque.
oui.
Et c'est un photographe de mariage qui me plaisait énormément,
Ouais.
qui était différent et différenciant par rapport à ce qu'on pouvait trouver à l'époque
D'accord.
chez les photographes de mariage. Et du coup, quand il a proposé sa formation, je l'ai suivi et il y a vraiment eu un avant et un après.
Ok.
Il n'y a pas que la formation de mariage de Xavier sur Ampara, il y en a eu d'autres que j'ai suivies aussi et qui au final sont aussi orientés entrepreneurs. Donc tout ça c'était intéressant. Il y avait d'autres photographes de mariage du type Craig Fink ou Doug Warkey, etc. Et qui ont donc chacun une approche qui est un petit peu différente et qui se complète au final. Donc j'ai suivi ces formations-là. J'ai aussi changé mon parc, enfin mon parc d'objectifs ou
Ouais,
mon
ouais.
matériel. Je l'ai adapté aussi pour avoir le rendu que je souhaitais. Les jolis flous d'arrière-plan, le côté très. Voilà. Et donc, effectivement, quand je suis en mariage, je travaille qu'avec des focales fixes qui ouvrent à 1,2 ou 1,4, pas plus.
Ouais.
Voilà.
Et donc la formation, c'est vrai que c'est important parce que quand on veut se former, déjà c'est un vrai pas en avant parce que se former, on ne s'en rend pas compte, hein. Mais quand quelqu'un décide de former, toi, moi et toutes les personnes qui veulent le faire, en fait, il y a une espèce de comment dire, de remise en question de ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on va accepter, on s'en rend pas compte, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on accepte de baisser, enfin, de baisser notre référentiel de compétences. C'est qu'on sait qu'on va se rendre compte qu'on ne sait pas. Tu vois,
Oui,
c'est tout
c'est
bête,
ça,
hein.
c'est de l'humilité en fait.
Et voilà, c'est-à-dire
Être
qu'on.
capable de se dire, ben, ça je sais faire, mais ça non moins, ou d'analyser un petit peu ses forces et ses
C'est
faiblesses,
ça, c'est
et
ça.
du coup de reconnaître qu'on a besoin d'évoluer, je pense que c'est
D'évoluer,
aussi
ouais. Donc c'est
très
important d'avoir
important dans la vie.
cette humilité-là, c'est super important. Donc quand on se forme, on pense d'abord aux compétences, pas de l'apprentissage des compétences techniques. Voilà, comment je fais pour photographier tel type de situation, voilà, enfin des choses très, très, très techniques. Mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est le côté réseau. Alors, à condition que la formation le propose également, mais tu en as parlé, hein, c'est-à-dire que le fait de faire des formations. Alors le mieux, c'est présentiel, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais même aussi quand c'est en ligne, hein, on peut aussi travailler son réseau. Alors, je ne parle pas de réseau de clients pour l'instant, mais de réseau de pairs, hein, et ça permet de voir ce qui se fait à côté, d'échanger, et on apprend
De
aussi également
s'enrichir.
de s'enrichir. Donc, c'est important, hein, d'avoir cette humilité-là pour ne
Oui.
pas être. Voilà, vraiment, je sais que ma communauté, elle est pas comme ça, donc je le dis en sachant que ça vous parle, mais. Vraiment ne pas avoir cette espèce de certitude un peu mal placée là, tu vois, très, je veux dire, très masculine. Non, c'est bon, je sais,
Je gère.
je gère, j'ai besoin de rien, ne vous inquiétez pas pour moi. Peut-être, mais tu passes à côté de tellement de choses différentes qui vont t'enrichir, quoi.
Je pense que le jour où j'arrive à me dire que j'ai plus rien à apprendre de la photo, bah, il faudra que je fasse autre chose parce
Mais
que
ouais, mais
c'est
ouais.
ça,
C'est-à-dire que, en gros, tu
c'est trop
classes,
triste,
quoi.
quoi.
En gros, tu
Oui,
classes, ça veut dire quelque part, ouais, c'est ça.
c'est ça.
Donc, tu dis qu'il y a un avant et un après cette formation-là, en termes de rendu, hein, de tes images,
En termes d'approche, en
d'approche
termes
de
de...
l'événement.
C'était, ouais, c'était
Ouais.
plus holistique que ça, c'était plus global. Y a toute une approche, une façon aussi de... Ben, le relationnel avec les gens, il est très important, avec le couple
Complètement.
notamment. Donc, que ce soit de la prise de contact le jour J, de pouvoir justement, souvent, alors, c'est rare que j'ai eu des mariés qui soient complètement freestyle, en mode à la cool, c'est pas grave si... c'est pas grave ce qui se passe, tout va bien. Ils sont plutôt en général un peu stressés, voire un peu psychorigides sur le planning qu'elles ont établi, etc. Et donc, la tension, qui est aussi émotionnelle, hein, ça se comprend, hein, elle est à son comble, et elle se détend un petit peu après la cérémonie en général, quand
Ouais, c'est ça,
le
c'est quand même le
couvre est
point d'orgue.
passé. C'est
Ouais,
ça, c'est bon, on peut un peu
c'est
souffler, mais.
fait.
Ouais, c'est
Ouais.
ça. On peut un peu se détendre et passer un peu plus cool. Mais donc, il y a aussi toute cette approche-là, toute cette gestion-là du stress de l'autre. Donc, si tu es quelqu'un de naturellement un peu éponge et qui va absorber tout le stress et qui va devenir aussi stressé, ça peut être compliqué. Il y a aussi le fait de les mettre à l'aise. Les gens sont rarement des mannequins, ont rarement l'habitude de poser pour des photos.
Bien
Et
sûr.
donc, ils sont souvent, à chaque fois, les couples me disent tous, nous, on n'est pas très à l'aise. Soit on n'est pas photogénique, ou alors on n'est pas à l'aise, ou on est un peu coincé, ou quoi. Non, mais on l'est tous. Enfin, moi, la première,
Ben
j'ai besoin de
ouais.
savoir quoi
Enfin, le
faire.
métier, c'est un métier, un mannequin, hein, donc bien sûr qu'on n'est pas à l'aise.
Exactement. C'est un
Hein.
métier, et ça s'apprend, et il y a des trucs. Et en l'occurrence, en plus, dans le cadre d'un mariage, ce n'est pas une personne qui est toute seule, et qui doit interagir avec un objectif. C'est un couple qui interagit l'un avec l'autre, et moi je suis là pour mettre les gens à l'aise. Y a des techniques, il y a des approches, il y a notamment des approches qui sont un peu connues, que je ne maîtrise pas forcément, mais qui sont, je pense à Beloved, qui est un mouvement un petit peu d'écoute empathique et de bienveillance, cette chose comme ça, et qui va leur faire faire. Enfin, il y a plusieurs techniques pour faire en sorte pas que les gens oublient l'appareil photo, parce que clairement, on est tous plus ou moins conscients qu'il y a un appareil quelque part. Et ça modifie forcément un petit peu notre façon de faire, même si ce n'est pas conscient. Mais du coup, pour qu'ils ne se concentrent pas sur l'objectif, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire en l'occurrence le couple, l'un l'autre. Régis, tu vas te concentrer maintenant sur ta femme sur Régis, etc. Et donc, l'idée, c'est de les amener un petit peu à changer un petit peu leur focus pour que justement créer un petit peu des situations qui sont, alors pas intimes, parce que c'est difficile de l'être, vu le contexte, avec les gens, avec tout ça, mais où au final ils arrivent un petit peu à se retrouver. C'est leur créer une petite bulle où ils peuvent se retrouver, souffler un petit peu, je les éloigne un petit peu de tout le monde, et je commence par faire des photos de loin, où leur visage, c'est pas grave s'ils sont un peu crispés ou quoi, le but c'est qu'ils se détendent un petit peu, qu'ils passent un peu du temps ensemble, qui discutent, qui échangent, qui rient, qui se racontent leur journée, comment ils la vivent, etc. Et puis au fur et à mesure, un petit peu de temps forcément, mais ça va les aider un petit peu à relâcher un petit peu la pression. Et puis au final, on se retrouve en général avec les meilleures photos un peu après, parce qu'ils ont réussi à lâcher un peu prise. Et il y a des trucs tout simples. Un truc tout simple, c'est de les faire se mettre un petit peu l'un contre l'autre, proche. L'idée, c'est qu'ils soient proches, et d'essayer de calquer leur respiration l'un sur l'autre. Et donc,
Synchroniser, synchroniser.
exactement,
Ouais, ok.
ils synchronisent leur respiration. Et donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de se concentrer sur et leur respiration et celle de l'autre. Donc, c'est toute leur attention, elle est portée là-dessus, ce qui fait ça monopolise un peu toute leur
C'est normal.
énergie à ce moment-là.
C'est
Et
normal.
donc, au final, ça veut dire que quand ils vont finir par y arriver, ils se détendent, forcément. Et donc, on se retrouve avec des photos où ils ont envisagé. Les
Et par
photos
contre, là,
plus
tu vois,
détendues.
ça fait
Ouais.
quelques minutes que tu ne nous parles pas d'ouverture, de diaphragme, de vitesse, de machin, tout ça. Là, on est vraiment sur l'humain, quoi.
Exactement. Au
Et ça,
final, c'est ça qui est
clairement,
intéressant dans la photo
ça
de
qui est
mariage,
intéressant,
c'est qu'on est autant sur l'humain que sur de la. Oui, je pourrais parler technique, je pourrais parler. Mais au final, c'est un outil.
Oui,
Et
c'est un
donc
outil.
après. Euh,
Ouais, bien sûr.
après.
C'est ton, c'est ta, ton pinceau et ta peinture, quoi. Hein, voilà.
Exactement. Alors après, effectivement. J'ai déjà dit que je travaillais au focal fixe, donc j'ai deux boîtiers en général avec tous les objectifs à focal fixe montés. Du coup, j'en ai d'autres dans le sac ou quoi. Et donc après, en fonction du type de photo de mariage, moi, il y a plusieurs, plusieurs trends, plusieurs styles de photos
Ouais.
de mariage émergents qui vont se distinguer. Tu peux avoir des photos un peu moody, des photos fearless, plutôt reportage, et d'autres dont je fais partie qui sont plus dans un courant, on va dire, fine art.
Ouais.
On va parler plutôt sur des photos lumineuses, douces,
D'accord.
etc.
D'accord.
Les détracteurs diront que ça fait photo très posée, très morte, mais j'essaye un petit peu de me démarquer de ça à ce niveau-là. Après, chacun son ressenti. Mais donc, chaque style va avoir aussi son mode de prise de vue et peut-être du coup ses outils qui sont plus ou moins adaptés
D'accord.
et ses focales fétiches aussi, donc en fonction du rendu, quoi. Moi, je serais plus au 50 ou au 85, tandis qu'un photographe un peu en mode reportage sera plus au 35 parce qu'il veut voir plein de contextes et d'éléments de scène, tandis que moi, je veux vraiment isoler le sujet pour qu'on voit plus que lui. Donc après, c'est vraiment, c'est vraiment l'approche. Elle est liée aussi au matériel. Donc je peux pas dire il faut absolument en mariage utiliser telle et telle focale et tel boîtier. C'est une hérésie.
Et ce style-là que tu t'es trouvé, qui est très, très malin, en fait, c'est-à-dire que c'est pas défini maintenant pour toute ta vie, hein. En ce moment, c'est plutôt comme ça que tu fais tes photographies de mariage pour avoir ce type de rendu-là. Comment?
J'aime bien ce rendu parce que je le trouve assez intemporel et
Ok.
que pour moi,
Ah oui, tu penses à ça, tu penses à dans 30 ans, quand ils verront leur photographie, il ne faut pas que ce soit
exactement.
marqué année 2020, quoi. Ou
C'est ça,
enfin,
exactement.
2010, ou je sais pas quoi. Ok.
Je veux pas que quand ils. Enfin, moi, pour moi, ma conception de la photo de mariage, c'est que je veux que ce soit. Ça fasse partie de leur héritage familial
Ouais, d'accord.
et que je veux qu'ils puissent regarder encore leurs photos dans 50 ans et qu'ils disent, ah ouais, franchement, ça c'est nous et ceci, cela. Et pas qu'ils disent, oh mon Dieu, mais t'as vu. Alors effectivement, il y aura des éléments qui seront datés
Oui,
en
tu vois,
fonction de la déco ou des
bien
vêtements,
sûr,
etc.
bien
Mais
sûr.
c'est tout ce que je veux en tout cas, je veux pas que
Ouais.
ma photo, elle reflète un style de mode de
Très.
photo,
Il faut pas que la
comme il y a eu
photographie
sur
soit marquée.
Instagram à un moment donné où c'était très orangé cyan
D'accord,
et c'était
d'accord.
très marqué. Je veux pas qu'il y ait, pour moi,
D'accord.
ce soit un peu timeless, enfin un peu
Ouais.
intemporel. Et donc, cette approche-là, elle se manifeste aussi comme ça.
Okay.
Voilà.
Non, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Le style, évidemment, faut que ça te plaise à toi, bien sûr. Mais
Et
tu
puis je
penses
trouve
aussi
qu'en
à.
plus, il y a aussi le côté lumineux, doux,
Ouais.
qui pour moi marche bien avec le mariage, qui pour moi reflète aussi cet aspect un peu de joyeux,
L'amour?
de douceur. Voilà,
Bah ouais.
exactement. Et qui du coup, pour le mouvement fearless sera plutôt. Ça dépend aussi sur quoi il se focalise, mais un peu plus le côté soit très coloré, soit noir et blanc, très contrasté, etc., qui va correspondre plutôt à certains types de personnalités aussi. Qui vont parler un petit peu à ceux qui aiment faire la fête et pour qui les photos de la soirée, de la piste de danse sont super importantes. Et donc, ils vont
D'accord.
prendre des objectifs soit 35, soit carrément aller à l'ultra grand angle pour avoir des côtés un peu déformés, etc. Et qui, du coup, ça leur parle parce que ça reflète ce qui est important pour eux. Donc, au final, si le style est aussi révélateur de la façon dont on perçoit le mariage et dont les mariés le perçoivent aussi, donc ils vont, j'ose espérer, venir te chercher pour ça.
Ouais. Et
Voilà.
donc, c'est-à-dire que ouais, donc là, la transition est parfaite. Par rapport au client, justement, tu fonctionnes comment? Voilà, je sais pas, bouche à oreille exclusivement, ou tu as vraiment
Ah,
des stratégies commerciales très établies, très
tu
poussées.
sais, on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est pas parce que je fais du
Ben oui,
marketing.
parce que voilà, c'est ça, c'est que en gros, toi, c'est ton métier. Et d'ailleurs, juste, alors, une parenthèse aussi, je voulais aborder ce sujet, mais ça fait déjà 53 minutes, ça passe tellement vite.
Tant mieux.
Mais tant mieux, mais tant mieux. Et en même temps, mince, déjà là, quoi. Donc, actuellement, est-ce que la photographie de mariage est ton activité principale?
Équivalente avec le marketing.
Marketing, d'accord. Ok. Et donc, tu l'as dit, c'est pas parce que tu es dans le marketing sur cet aspect professionnel que tu vas être forcément quelqu'un d'hyper hyper bon marketingment parlant dans le mariage. C'est parce que tu te l'interdis, parce que c'est pas la même
C'est pas
chose, c'est
parce
pas
que
le
je me
même groupe.
l'interdis, c'est parce que c'est plus difficile d'analyser sa stratégie personnelle,
Et c'est
etc.
ça.
C'est à ce niveau-là. J'ai beaucoup d'efforts à faire dans plein de domaines, notamment le SEO, par exemple,
SEO, c'est le
le
Search
référencement.
Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement de ton blog, de ton site sur le net, tout simplement.
Exactement.
Ouais.
Pour lequel il faudrait que j'ai une stratégie de contenu plus poussée, etc. Donc, clairement, on a tous un petit peu des zones où on est plus confortable que d'autres.
Ouais.
Et là, je n'ai pas forcément fait la bonne élève à ce niveau-là. Donc, je suis
Ok.
pas. Voilà, c'est pour ça que je dis que le cordonnier est le plus mal chaussé, etc. Je sais qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut que vraiment je travaille. Pour
Ok.
l'instant, ça ne m'empêche pas de booker.
Ouais.
Donc, ça va, mais ça n'empêche pas de me dire oui, Émilie, il faudrait peut-être te réveiller.
Après, je te rassure, hein, quand on tape Émilie Cabot, on tombe sur son site en premier lieu. C'est bon, ça marche.
Tant mieux parce que j'ai une homonyme en France qui, du
Ah
coup,
oui?
travaille chez, dans. Je crois qu'elle est journaliste ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il y a.
La confusion, quoi. Ouais.
Bon, après, voilà. Ta question, c'était comment
Oui,
est-ce
bah en
que.
gros, comment tu bookes? Voilà, tu as des mots, comment
Comment
tu
je book?
bookes? Ouais.
Alors.
D'ailleurs, oh, bon, ça va bientôt faire 1 heure, et puis voilà, il faudrait faire un live, j'imagine presque que là-dessus, parce que c'est tellement de choses à dire, mais en quelques mots, quelques lignes, tu vois.
Ouais. Alors, comment je book? Il y a une bonne part de bouche à oreille.
Ok.
Tu parlais de réseau tout à l'heure, c'est important d'avoir un réseau, de se créer un réseau de pairs,
Ouais.
de pairs aussi dans les professionnels de l'industrie dans lequel tu es.
Ok.
Je pense à une créatrice de robes de mariée qui fait un travail sublime à
Bien sûr,
Grenoble
ouais.
qui s'appelle Mademoiselle Rêve.
D'accord.
J'ai travaillé avec elle et les mariées, une des premières choses qu'elles vont chercher, c'est une robe avec le lieu. Et donc, une mariée est allée la voir et lui a dit ben, j'ai pas encore trouvé mon photographe. Et elle connaissait plusieurs photographes.
Bien
Et
sûr.
donc, elle lui a donné une liste des photographes qu'elle connaissait, qu'elle pouvait recommander, dont elle connaissait le travail. Et je faisais partie de cette liste. Et
D'accord.
donc, c'est comme ça que j'ai pu faire la mariée. Se marier, ils sont français et moitié grec.
Ok.
Donc, ils sont mariés en Grèce.
D'accord. Ah ouais.
Et
Donc
donc.
t'es allé là-bas? Incroyable.
Ah, c'était
Incroyable.
génial.
Ouais.
C'est un exemple parmi d'autres, mais ça permet aussi de se faire connaître auprès de ses pairs, de gagner aussi en crédibilité et d'affiner aussi son travail parce qu'on se confronte aussi au vu de certains autres, etc. Et y a donc le réseau, le référencement, c'est important, et une stratégie de réseaux sociaux aussi.
Facebook, Instagram particulièrement.
Exactement. Après, ça dépend aussi de ta cible. Je ne peux
Bah
pas
ouais.
dire qu'il y a une formule qui marche pour tout le monde
Ok.
parce que c'est un peu les bases du marketing. Qui est ta cible? Ton persona ou quoi?
Ouais.
Et sur quel contenu où est-ce qu'elle va chercher ces informations? Et
D'accord.
c'est là où tu vas chercher en fonction de qui est ta cible
Bien sûr.
à marketer. Donc, il y a aussi énormément de bouche à oreille. Et Instagram.
Ok. Bon, bah, écoute, déjà, ça donne des pistes. Et puis, ça nous explique comment tu vas, comment tu fais. Dernière question, quand même, par rapport au Covid. Alors là, du coup, c'est très marqué temporellement, la question, parce que dans 5 ou 10 ans, s'il y en a qui réécoutent le podcast, peut-être se diront, bah,
Espérons que ça soit plus
eh bien,
applicable.
c'est ça, espérons que ce soit plus d'actualité. Hein. Donc, bon, voilà, donc je remets dans le contexte. 2020, c'est l'année du Covid, du Covid-19, hein, voilà. Donc, du confinement, donc, des règles très strictes en termes de réunions sociales et familiales. Donc, on ne peut pas se réunir comme on le veut. Donc, les mariages sont vraiment, évidemment impactés. Toi, en tant que
Risque
professionnel,
d'événementiel a été durement touché, effectivement.
alors, toi, comment tu as. Je sais pas gérer ça, comment ça t'a impacté, comment tu l'as vécu.
Alors, y a forcément eu beaucoup de reports. Comment je l'ai vécu un petit peu alors, entre collègues, on a tous un peu parlé, on a tous échangé, etc. Il y a notamment aussi la photographe Joëlle Verbruche, qui est également
Oui,
avocate.
oui.
Qui du coup a été une bonne source de conseils
D'accord.
parce que toute la partie, au final, on fait des contrats en espérant pas avoir besoin de s'en servir.
Ouais.
Et effectivement, là, on était un peu dans un ah! Entre être campé sur ses positions juridiques ou être en mode un peu bisounours, et au final, on a tous besoin de payer les factures à la fin du mois, donc il faut trouver un certain équilibre, etc. Je ne peux pas dire que j'ai eu trop de déconvenues à ce niveau-là cette année. Tous les couples avec qui j'ai travaillé, enfin, qui devaient se marier cette année, qui ont dû changer un peu leur plan, on a essayé de trouver des solutions. Donc, soit on fait du report sur 2021, soit pour certains. où ils savent pas trop parce que ben ils viennent de l'étranger et on ne sait pas trop ben, s'ils viennent des États-Unis, comment ça se passe en termes de frontières, etc. On essaie toujours de trouver des solutions et du moment où ça se passe en intelligence,
D'accord.
je cherche pas. Enfin voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis majeurs à ce niveau-là. J'ai un couple qui devait se marier en 2020, qui du coup s'est dit bah, finalement on va faire quelque chose en novembre, raté.
Donc, raté,
Voilà.
bien sûr.
Et donc ils m'ont dit bah, franchement on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se marier, on sait pas si on va pouvoir se marier avant 2023.
Ouais, donc là, ouais, puis il y a ce décalage de trésorerie, en fait, hein, qui est important.
Exactement, de trésorerie, de ben clairement mes tarifs de 2000, enfin pour 2020 ils m'avaient booké en 2018 ou 2019, donc la différence de prix entre-temps, elle change aussi.
Ouais,
Donc
bien sûr, ouais.
il y a un peu tout ça, mais enfin c'est des problèmes qu'on a tous rencontrés ou qu'on va tous rencontrer. Et du coup, je pense qu'il faut aussi être prévoyant. Être photographe, c'est il y a beaucoup d'artistes et il y a peu de gens qui comprennent que c'est aussi quand on veut être
Du
professionnel un
commerce.
business
Du commerce.
et que donc il faut réfléchir en tant que professionnel
Exactement.
avec ben, une trésorerie,
Exactement.
une
Chef d'entreprise.
projection. Et exactement, il faut réfléchir comme un chef d'entreprise et donc il faut être capable de prévoir comment ça se passe si demain il y a un Covid ou demain j'ai un accident, je suis incapable de prendre des photos pendant X temps.
Exactement.
Il faut quand même que ma boîte elle puisse survivre,
C'est
donc
ça.
il faut que je puisse prévoir et anticiper. Donc il y a un peu tout ça. C'est un peu difficile à entendre pour certains et je le comprends parce que c'est pas forcément simple, mais c'est important aussi de le réaliser. Je pense que cette année
Important.
ça a été un violent
Un rappel à
coup de
l'ordre.
massue
Je
pour
pense
voilà, c'est ça.
un gros rappel à l'ordre. Moi, je sais que je me suis formé là-dessus. Hein, avec, alors, elle s'appelle. Elle n'est pas photographe et pas connue dans le milieu de la photographie. Elle s'appelle Laure Matsoukis,
D'accord.
qui aide les entrepreneurs justement à gérer leur trésorerie, tout l'aspect financier du business. Et en fait, ce qu'elle préconise, entre autres conseils, hein, mais celui-ci, c'est d'avoir au moins 3 mois d'avance de trésorerie,
Trésorerie,
correspondant
ouais.
à 3 mois de chiffre d'affaires. Hein.
Ah, au moins, ouais. J'aurais plutôt dit 6, mais...
Ouais, bon, bah voilà quoi. Ouais, donc c'est vrai que ça permet de. Quand on commence à avoir ses premiers contrats, donc ses premières rentrées d'argent, c'est un vrai savoir-faire, hein, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas, que de savoir gérer justement ta trésorerie, tes finances, de manière à te sécuriser, hein, sur des événements qui peuvent te tomber là comme ça sur le coin du nez.
Exactement.
Complètement, ouais. Ça fait plus d'une heure. J'ai d'habitude. Voilà, c'est à peu près la zone, là, on a un peu dépassé, mais je pourrais discuter photo, business pendant très longtemps, parce que je trouve que c'est passionnant, en fait. C'est quand même deux mondes très différents, comme ça, de prime abord. Le business, tu sais, c'est très
Oui.
normé, machin, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et l'aspect artistique, où, bah voilà, des artistes, on fait ce qu'on veut, hein, et puis, en fait, les deux mondes, c'est ça qui rige dans la photographie, hein. C'est ça qui est génial, je trouve, c'est en tant qu'entrepreneur photographe, tu as ces deux mondes-là qui vont se mélanger, qui peuvent créer des choses magnifiques.
Une petite session en question-réponse vite fait. Le
Ouais,
rendu se
complètement.
penche beaucoup sur la retouche après. Là, je peux dire que non. Le rendu, il y a la retouche après, mais il y a énormément. En tout cas, dans mon approche ou dans celle des collègues que je peux connaître, il y a énormément de au moment de la prise de vue et à la façon dont tu traites ton sujet par rapport à la lumière, où tu les places. Si l'arrière-plan il est sombre ou il est lumineux ou comment la lumière elle tombe sur eux, etc. Ça fait quand même 80% du travail
Bien
et
sûr.
la retouche après, à moins de vraiment faire du gros HDR lourdingue ou des choses comme
Ouais,
ça,
lourdingue.
ce qui est absolument pas du tout dans mon dans ma façon de faire ou quoi. Mais si la colorimétrie elle va jouer, etc. Dans mon approche, en cherchant le côté un peu intemporel, etc., ne pas chercher
Bien sûr.
à leur rendre un teint de peau à la Trump ou je ne sais pas. Donc la colorimétrie, elle va jouer dans le sens où je vais m'attacher à faire en sorte que les tons de peau soient fidèles, etc. Et du coup, j'aime bien le côté rendu pastel, etc. Donc, je vais pas chercher forcément à accentuer trop les contrastes ou les couleurs trop vives ou quoi. Mais ça se joue aussi à la prise de vue. Si j'ai un couple qui a fait une séance grossesse, ils sont venus tous les deux, elle avec une robe rouge et lui avec une chemise rouge. le rendu pastel, on l'oublie. Hein,
ouais, ouais. Là, voilà. La douceur un peu vaporeuse, c'est fini, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça. Je veux dire. Ouais. Donc bon, mais concrètement.
Il y a Emeline qui demande comment insuffler de la douceur dans les photographies, ce côté pastel justement.
Alors justement, quand je disais que j'utilise des focales fixes avec une très grande ouverture, ça permet justement d'avoir une faible profondeur de champ. Ça. Et donc, en plaçant ton sujet face à un arrière-plan qui est plutôt neutre, enfin neutre ou en tout cas pas trop buzzy, pas trop
chargé quoi.
Ouais, ouais, pas trop chargé, c'est ça. Merci. j'ai eu du mal là. Du coup, ça va faire en sorte justement de les isoler, la douceur de ce qu'on appelle le bokeh, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan, va aider aussi à donner beaucoup de douceur.
Bien sûr.
Et après, il y a la lumière, donc tu as de la lumière type de fenêtre. Ou,
ouais, ouais.
Et de jouer aussi si je suis sur une séance engagement ou couple. Je vais essayer de leur dire de prendre plutôt des tons un peu neutres ou quoi, et je vais faire attention au lieu où je vais prendre les photos. Il y a des lieux qui s'y prêtent plus que d'autres pour obtenir un rendu un peu doux.
Donc c'est un vrai travail global en fait. Hein.
C'est ça, c'est complètement global.
C'est pas juste, c'est pas la prise de vue ou c'est pas après la retouche. On pourrait se dire à la retouche après au développement. Bon, je vais enlever du contraste, je vais enlever un peu de netteté pour avoir moins
de piqué. Tu peux pas enlever si tu fais ça dans les bois et qu'il y a plein de bois morts un peu partout.
Ah ouais, c'est là quoi. Si tu photographies à une ouverture
exactement,
un peu fermée, à F12, c'est mort quoi. Donc non, le travail. Si tu veux avoir le moins de travail de retouche et être et voilà, c'est tout, de toute façon, tout se fait à la prise de vue. Enfin, la plupart des choses. Après, c'est
énormément se passe à la prise de vue. Et après, on est dans l'ajustement et l'affinement. Et c'est peut-être là où tu vas mettre un petit peu aussi ta patte par rapport à certains choix de petits réglages. Mais on est bien vraiment. Je veux dire, je vais faire une comparaison de gros beauf. Mais si tu choisis une voiture avec un moteur et ceci et cela, tu ne peux pas t'attendre après à avoir quelque chose de complètement différent dans la conduite, quoi. Ou dans le choix de la couleur du modèle ou des intérieurs cuir ou je ne sais pas quoi.
Ouais.
Donc, désolé pour ça, mais voilà, c'était un peu le... Ouais. Voilà, si tu choisis de faire des photos avec des gens au milieu d'un port où du coup, il y a plein de bateaux avec plein de mailles, ceci, cela... Je suis désolée, tu n'auras jamais quelque chose de très...
Le rendu doux, et note que ça va être très droit, justement, bref.
Ça va être très droit, ça va être très fouillis, il va y avoir beaucoup de lignes partout. C'est hyper important. Et je fais aussi attention à ça, par exemple, pour les préparatifs de la mariée. À la première partie, pendant qu'elle commence à se faire préparer, déjà, je ne la prends pas en photo avant, après, enfin, avant qu'elle soit maquillée, pour éviter les photos avant, après, un peu.
Oui.
Petit détail comme ça. Mais du coup, je vais passer un peu de temps à ranger, entre guillemets, à mettre de côté un petit peu tout le bazar qu'ils peuvent amener, la valise, les ceci, les cela, le lisseur. Essayer d'avoir au moins un espace où ce soit... où, en fait, le sujet, il sera mis en valeur. Et le sujet, c'est pas la bouteille de shampoing ou je ne sais quoi d'autre.
Parce que malgré une grande ouverture, de toute façon, tu l'auras, ce shampoing, il sera là. Quoi. Je veux dire, on va
deviner. C'est ça, surtout si tu as une tache de couleur.
De couleur, c'est ça.
Sombre. Ouais. Tu ne pourras pas.
Ça va tirer le regard là où tu veux.
Mais
tu loupes le truc, ouais. Bon, là, c'est l'expérience qui parle aussi beaucoup. Hein. Je veux dire, tu t'es fait avoir une fois, tu ne te feras pas avoir deux fois aussi.
C'est ça. Donc, et puis tu te dis, mais c'est pas. Alors, au début, tu te dis, c'est pas grave, j'enlèverai avec Photoshop.
Oui, non.
Tu ne peux pas faire ça sur une petite séance où
tu
as une dizaine de photos.
Tu ne feras pas sur 200 photos. Ouais.
C'est ça. Tu ne peux pas faire ça sur 600 photos. Passer ton temps à... Non, parce que pour le coup, tu y es encore...
C'est ça. Pas... Ouais.
Et puis, tu vas vite t'épuiser. Tu vas vite comprendre qu'à la prise de vue, si tu règles le souci, tu n'as pas à le faire après.
C'est ça. Ouais. Non, mais c'est fondamental. C'est l'expérience. Tu te fais avoir une fois, pas deux. Hein. Donc,
c'est ça. Ouais. Et le truc tout bête des prises, les blocs de prise ou je sais pas quoi, au final, tu dis, mais si je me décale juste comme ça, je la vois plus.
Alors après, tiens, une question. Alors, tu vois,
allez, vas-y.
Est-ce que toi... quand tu photographies, est-ce que déjà tu appliques la balance des blancs le petit rendu que tu vas avoir sur ton écran. Parce que, tu vois, ça, je trouve que moi, j'ai découvert ça lors d'un stage photo que j'avais fait en animalier, enfin, mon macro n'a rien à voir. Moi, j'étais plutôt partisan du, en gros, je touche pas la lance des blancs à la prise de vue, de toute façon, parce que je pourrais, après, en post-traitement, je fais ce que j'ai envie de faire. Et en fait, le formateur, donc Fabien, n'importe quoi, Bastien Rinu, photographe macro que je trouve absolument incroyable, et ben, il m'a dit non, vas-y, imagine déjà maintenant le rendu que tu vas avoir. Et donc, tu vas déjà modifier cette balance des blancs sur ton appareil, qui sera pas figé, hein, tu pourras après remodifier après coup sur ton ordinateur, il n'y a aucun souci. Mais, et c'est vrai que eh
Ça
ben,
m'a un peu le travail.
ça m'a orienté, ça a orienté mon travail. Le placement de mon sujet, le placement du flash, le fait d'avoir cette balance des blancs et ce rendu. Là, directement lors de la prise de vue, ça a orienté mon inspiration du moment. Donc toi, comment tu fais ça?
Alors, j'aimerais bien me dire que je fais pareil, sauf qu'en mariage, il y a plusieurs situations de lumière qui sont
Bien
différentes.
sûr, ça change assez, ouais.
Et voilà, et donc tu es obligé un petit peu d'adapter. Alors, il y a les partisans de je mets tout le temps la même balance des blancs partout et après je retouche, ou alors je laisse le boîtier un peu interpréter et de toute façon je retoucherai. Je suis pas encore complètement définitivement fixée là-dessus parce que c'est pas forcément évident dans le sens où si je suis dans un même contexte, un même environnement de lumière, etc., oui, tu le mets et comme ça tu vois déjà un petit peu le rendu que tu vas avoir, etc. Si je dois à chaque fois que je change de lieu et de choses comme ça sur un mariage, on bouge quand même pas mal, le remettre, ou du moins le rééquilibrer ou quoi, je sais pas, faudrait voir.
Ouais. C'est aussi selon le moment, selon. Ouais, c'est peut-être assez. Mais c'est très personnel en fait ce truc-là. Et c'est vrai que le côté photographie de mariage est très particulier parce que ça change, l'environnement change,
C'est ça.
la lumière change, les situations de la journée vont changer. Donc tu peux pas. Et puis tu peux pas. Autant de photographie de séance macro posée où rien ne bouge, t'as le temps. Limite, j'ai envie de te dire, tu peux te poser, fermer les yeux et prendre le soleil sur la tête et te dire qu'est-ce que je veux, quoi. Tu
Ouais,
vois
c'est ça. Tandis que là, t'es dans des microsecondes de réflexion, des choses
Voilà.
comme
Donc
ça.
c'est.
Alors, comme je shoote tout en manuel, je suis déjà en train de me dire, attends, il faut que là, on sort de l'église, il va vite falloir que je change mes réglages parce
C'est
que
ça,
sinon,
c'est ça.
sinon tout va être surexposé, etc. Donc, pour l'instant, soit je mets une balance des blancs qui a 5005, quelque chose assez
Ok,
neutre,
ok.
et je bouge et j'y touche plus. Soit je le laisse en auto et je me dis, bon, de toute façon, je serai obligée de repasser plus de temps dessus. Donc, pour l'instant, j'ai pas de the méthode. Mais effectivement, en situation de lumière qui varie pas trop, ou en tout cas, si j'étais pas sur autant de changements drastiques, clairement, c'est ce que je ferais aussi.
Ok, ça marche. Très bien. Émilie, tu parlais tout à l'heure de création de marque, de stratégie de contenu, hein, pour te faire connaître. Est-ce que justement, on peut te trouver quelque part pour suivre toi, Émilie, photographe de mariage, où est-ce qu'on peut aller te voir pour suivre ton quotidien le plus facilement?
Alors, bah, Instagram,
Ouais, clairement.
donc Émilie Cabot Photographie avec un Y à la fin. Et puis sinon, j'ai un site internet www.emiliecabot.com. Et je crois que c'est tout.
Et ben voilà, très bien.
Et je suis sur Facebook aussi, mais clairement,
Oui,
c'est pas sur Facebook que je.
d'accord. Mais ton Instagram, c'est là où s'il y a un truc à suivre, c'est celui-ci, quoi.
Exactement,
D'accord.
voilà.
Ben merci. Encore merci à vous de la mettre
Merci à
là.
toi.
Allez, au revoir, merci.
Merci, au revoir, bye.
Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est deux choses. Soit de partager l'épisode, l'émission à votre entourage, si vous avez des connaissances qui sont dans la photographie, qui sont aussi dans cette recherche entrepreneuriale. Eh bien, si vous savez que ce que vous venez d'écouter, ça peut les aider, partagez par mail, en partage sur Facebook, peu importe. Et puis, ce que vous pouvez faire également, en plus ou à côté, c'est de noter l'émission. Et le mieux, c'est de le faire sur Apple Podcast, parce que c'est là où se situe la grande majorité des écoutes et c'est là où les gens peuvent découvrir l'émission également. Merci infiniment pour votre support, pour les messages que je reçois, hein, les mails que je reçois, les messages d'encouragement. Donc maintenant, merci infiniment pour tout ça. Je sens qu'il y a un vrai un mouvement qui se crée autour du podcast et ça m'encourage énormément à continuer et à vous aider via cette émission.